C'est un fait général dans tous les pays d'Europe que l'aptitude des militaires au suicide est très supérieure à celle de la population civile du même âge. La différence en plus varie entre 25 et 900%. Le Danemark est le seul pays où le contingent des deux populations est sensiblement le même. 388 pour 1 million de civils et 382 pour 1 million de soldats pendant les années 1845-56. Encore, les suicides d'officiers ne sont-ils pas compris dans ce chiffre? Ce fait surprend d'autant plus au premier abord que bien des causes sembleraient devoir préserver l'armée du suicide. D'abord, les individus qui le composent représentent au point de vue physique la fleur du pays. Triés avec soin, ils n'ont pas de tare organique qui soit grave. De plus, esprit de corps, la vie en commun devrait avoir ici l'influence prophylactique qu'elle exerce ailleurs. D'où vient donc une aussi considérable aggravation? Les simples soldats n'étant jamais mariés, on a incriminé le célibat. Mais d'abord, le célibat ne devrait pas avoir à l'armée d'aussi funestes conséquences que dans la vie civile, car comme nous venons de le dire, le soldat n'est pas un isolé. Il est membre d'une société très fortement constituée et qui est de nature à remplacer en partie la famille. Mais quoi qu'il en soit de cette hypothèse, il y a un moyen d'isoler ce facteur. Il suffit de comparer les suicides des soldats à ceux des célibataires du même âge. Le tableau 21, dont on voit de nouveau l'importance, nous permet cette comparaison. Pendant les années 1888-91, on a compté en France 380 suicides pour 1 million de l'effectif. Au même moment, les garçons de 20 à 25 ans ne donnaient que 237. Pour 100 suicides de célibataires civils, il y avait donc 160 suicides militaires, ce qui fait un coefficient d'aggravation égal à 1,6, tout à fait indépendant du célibat. Si l'on compte à part les suicides des sous-officiers, ce coefficient est encore plus élevé. Pendant la période 1867-74, 1 million de sous-officiers donnaient une moyenne annuelle de 993 suicides. D'après un recensement fait en 1866, ils avaient un âge moyen d'un peu plus de 31 ans. Nous ignorons, il est vrai, à quel chiffre montaient alors les suicides célibataires de 30 ans. Les tableaux que nous avons dressés se rapportent à une époque beaucoup plus récente, et ce sont les seuls qui existent. Mais en prenant pour point de repère les chiffres qu'ils nous donnent, l'erreur que nous commettrons ne pourra avoir d'autre effet que d'abaisser le coefficient d'aggravation des sous-officiers au-dessous de ce qu'il était véritablement. En effet, le nombre de suicides ayant presque doublé de l'une de ces périodes à l'autre, le taux des célibataires de l'âge considéré a certainement augmenté. Par conséquent, en comparant les suicides des sous-officiers de 1867-74 à ceux des garçons de 1889-91, nous pourrons bien atténuer, mais non pas empirer, la mauvaise influence de la profession militaire. Si donc, malgré cette erreur, nous trouvons néanmoins un coefficient d'aggravation, nous pourrons être assurés non seulement qu'il est réel, mais qu'il est sensiblement plus important qu'il n'apparaîtra d'après le calcul. Or, en 1889-91, 1 million de célibataires de 31 ans donnaient un chiffre de suicide compris entre 394 et 627, soit environ 510. Ce nombre est à 993 comme 100 est à 194, ce qui implique un coefficient d'aggravation de 1,94 que l'on peut presque porter à 4 sans craindre de dépasser la réalité. Enfin, le corps des officiers a donné en moyenne de 1862 à 1878 430 suicides par million de sujets. Leur âge moyen, qui n'a pas dû varier beaucoup, était en 1866 de 37 ans 9 mois. Comme beaucoup d'entre eux sont mariés, ce n'est pas aux célibataires de cet âge qu'il faut les comparer, mais à l'ensemble de la population masculine, garçons et époux réunis. Or, à 37 ans, en 1863-68, 1 million d'hommes de toute état civil ne donnait qu'un peu plus de 200 suicides. Ce nombre est à 430 comme 100 est à 215, ce qui fait un coefficient d'aggravation de 2,15 qui ne dépend en rien du mariage ni de la vie de famille. Ce coefficient qui, suivant les différents degrés de la hiérarchie, varie de 1,6 à près de 4, ne peut évidemment s'expliquer par des causes propres à l'état militaire. Il est vrai que nous n'en avons directement établi l'existence que pour la France. Pour les autres pays, les données nécessaires pour isoler l'influence du célibat nous font défaut. Mais comme l'armée française se trouve justement être la moins éprouvée par le suicide qui soit en Europe, à l'exception du seul Danemark, on peut être certain que le résultat précédent est général et même qu'il doit être encore plus marqué dans les autres états européens. À quelle cause l'attribuer ? On a songé à l'alcoolisme qui, dit-on, sévit avec plus de violence dans l'armée que dans la population civile. Mais d'abord, si, comme nous l'avons montré, l'alcoolisme n'a pas d'influence définie sur le taux des suicides en général, il ne saurait en avoir davantage sur le taux des suicides militaires en particulier. Ensuite, les quelques années que dure le service, 3 ans en France et 2 ans et demi en Prusse, ne sauraient suffire à faire un assez grand nombre d'alcooliques invétérés pour que l'énorme contingent que l'armée fournit au suicide puisse s'expliquer ainsi. Enfin, même d'après les observateurs qui attribuent le plus d'influence à l'alcoolisme, 1/10 seulement des cas lui serait imputable. Par conséquent, quand même les suicides alcooliques seraient 2 et même 3 fois plus nombreux chez les soldats que chez les civils du même âge, ce qui n'est pas démontré, il resterait toujours un excédent considérable de suicides militaires auxquels il faudrait chercher une autre origine. La cause que l'on a le plus fréquemment invoquée est le dégoût du service. Cette explication concorde avec la conception courante qui attribue le suicide aux difficultés de l'existence. Car les rigueurs de la discipline, l'absence de liberté, la privation de tout confortable font que l'on est enclin à regarder la vie de caserne comme particulièrement intolérable. À vrai dire, il semble bien qu'il y ait beaucoup d'autres professions plus rudes et qui pourtant ne renforcent pas le penchant au suicide. Du moins, le soldat est toujours assuré d'avoir un gîte et une nourriture suffisante. Mais quoi que vaillent ces considérations, les faits suivants démontrent l'insuffisance de cette explication simpliste. Premièrement, il est logique d'admettre que le dégoût du métier doit être beaucoup plus prononcé pendant les premières années de service et aller en diminuant à mesure que le soldat prend l'habitude de la vie de caserne. Au bout d'un certain temps, il doit se produire un acclimatement, soit par l'effet de l'accoutumance, soit que les sujets les plus réfractaires aient déserté ou se soient tués. Et cet acclimatement doit devenir d'autant plus complet que le séjour sous les drapeaux se prolonge davantage. Si donc c'était le changement d'habitude et l'impossibilité de se faire à leur nouvelle existence qui déterminait l'aptitude spéciale des soldats pour le suicide, on devrait voir le coefficient d'aggravation diminuer à mesure qu'ils sont depuis plus longtemps sous les armes. Or il n'en est rien, comme le prouve le tableau qui suit. En France, en moins de 10 ans de service, le taux des suicides a presque triplé, tandis que pour les célibataires civils, il passe seulement pendant ce même temps de 237 à 394. Dans les armées anglaises de l'Inde, il devient en 20 ans 8 fois plus élevé. Jamais le taux des civils ne progresse aussi vite. C'est la preuve que l'aggravation propre à l'armée n'est pas localisée dans les premières années. Il semble bien qu'il en ait de même en Italie. Nous n'avons pas, il est vrai, les chiffres proportionnels rapportés à l'effectif de chaque contingent, mais les chiffres bruts sont sensiblement les mêmes pour chacune des 3 années de service. 15,1 pour la première, 14,8 pour la seconde, 14,3 pour la troisième. Or, il est bien certain que l'effectif diminue d'année en année, par suite des morts, des réformes, des mises en congé, etc. Les chiffres absolus n'ont donc pu se maintenir au même niveau que si les chiffres proportionnels se sont sensiblement accrus. Il n'est pourtant pas invraisemblable que dans quelques pays, il y ait au début du service un certain nombre de suicides qui soient réellement dus au changement d'existence. On rapporte en effet qu'en Prusse, les suicides sont exceptionnellement nombreux pendant les 6 premiers mois. De même en Autriche, sur 1000 suicides, il y en a 156 accomplis pendant les 3 premiers mois, ce qui est certainement un chiffre très considérable. Mais ces faits n'ont rien d'inconciliable avec ceux qui précèdent, car il est très possible qu'en dehors de l'aggravation temporaire qui s'est produite pendant cette période de perturbation, il y en ait une autre qui tienne à de toute autre cause et qui est en croissant d'après une loi analogue à celle que nous avons observée en France et en Angleterre. Du reste, en France même, le taux de la seconde et de la troisième année est légèrement inférieur à celui de la première, ce qui pourtant n'empêche pas la progression ultérieure. Deuxièmement, la vie militaire est beaucoup moins pénible, la discipline moins rude pour les officiers et les sous-officiers que pour les simples soldats. Le coefficient d'aggravation des 2 premières catégories devrait donc être inférieur à celui de la troisième. Or c'est le contraire qui a lieu. Nous l'avons établi déjà pour la France. Le même fait se rencontre dans les autres pays. En Italie, les officiers présentaient pendant les années 1871-75 une moyenne annuelle de 565 cas pour 1 million, tandis que la troupe n'en comptait que 230, Morselli. Pour les sous-officiers, le taux est encore plus énorme. Il dépasse 1000 pour 1 million. En Prusse, tandis que les simples soldats ne donnent que 560 suicides pour 1 million, les sous-officiers en fournissent 1140. En Autriche, il y a un suicide d'officier pour 9 suicides de simples soldats, alors qu'il y a évidemment beaucoup plus de 9 hommes de troupes par officier. De même, quoiqu'il n'y ait pas un sous-officier pour 2 soldats, il y a un suicide des premiers pour 2,5 des seconds. Troisièmement, le dégoût de la vie militaire devrait être moindre chez ceux qui la choisissent librement et par vocation. Les engagés volontaires et les rengagés devraient donc présenter une moindre aptitude au suicide. Tout au contraire, elle est exceptionnellement forte. Pour les raisons que nous avons données, ces coefficients, calculés par rapport aux célibataires de 1889-91, sont certainement au-dessous de la réalité. L'intensité du penchant que manifestent les rengagés est surtout remarquable, puisqu'ils restent à l'armée après avoir fait l'expérience de la vie militaire. Ainsi, les membres de l'armée qui sont le plus éprouvés par le suicide sont eux aussi ceux qui ont le plus la vocation de cette carrière, qui sont le mieux faits à ses exigences et le plus à l'abri des ennuis et des inconvénients qu'elle peut avoir. C'est donc que le coefficient d'aggravation qui est spécial à cette profession a pour cause, non la répugnance qu'elle inspire, mais au contraire, l'ensemble d'états, habitudes acquises ou prédispositions naturelles qui constituent l'esprit militaire. Or, la première qualité du soldat est une sorte d'impersonnalité que l'on ne rencontre nulle part au même degré dans la vie civile. Il faut qu'il soit exercé à faire peu de cas de sa personne, puisqu'il doit être prêt à en faire le sacrifice dès qu'il en a reçu l'ordre. Même en dehors de ces circonstances exceptionnelles, en temps de paix et dans la pratique quotidienne du métier, la discipline exige qu'il obéisse sans discuter et même parfois sans comprendre. Mais pour cela, une abnégation intellectuelle est nécessaire qui n'est guère compatible avec l'individualisme. Il faut ne tenir que faiblement à son individualité pour se conformer aussi docilement à des impulsions extérieures. En un mot, le soldat a le principe de sa conduite en dehors de lui-même, ce qui est la caractéristique de l'état d'altruisme. De toutes les parties dont sont faites nos sociétés modernes, l'armée est d'ailleurs celle qui rappelle le mieux la structure des sociétés inférieures. Elle aussi consiste en un groupe massif et compact qui encadre fortement l'individu et l'empêche de se mouvoir d'un mouvement propre. Puisque donc cette constitution morale est le terrain naturel du suicide altruiste, il y a tout lieu de supposer que le suicide militaire a ce même caractère et provient de la même origine. On s'expliquera ainsi d'où vient que le coefficient d'aggravation augmente avec la durée du service. C'est que cette aptitude au renoncement, ce goût de la personnalité se développe par suite d'un dressage plus prolongé. De même, comme l'esprit militaire est nécessairement plus fort chez les rengagés et chez les gradés que chez les simples soldats, il est naturel que les premiers soient plus spécialement enclins au suicide que les seconds. Cette hypothèse permet même de comprendre la singulière supériorité que les sous-officiers ont à cet égard sur les officiers. S'ils se tuent davantage, c'est qu'il n'est pas de fonction qui exige au même degré l'habitude de la soumission et de la passivité. Quelque discipliné que soit l'officier, il doit être dans une certaine mesure capable d'initiative. Il a un champ d'action plus étendu par suite, une individualité plus développée. Les conditions favorables au suicide altruiste sont donc moins complètement réalisées chez lui que chez le sous-officier. Ayant un plus vif sentiment de ce que vaut sa vie, il est moins porté à s'en défaire. Non seulement cette explication rend compte des faits qui ont été antérieurement exposés, mais elle est en outre confirmée par ceux qui suivent. Premièrement, il ressort du tableau 23 que le coefficient d'aggravation militaire est d'autant plus élevé que l'ensemble de la population civile a un moindre penchant au suicide et inversement. Le Danemark est la terre classique du suicide. Les soldats ne se situent pas plus que le reste des habitants. Les états les plus féconds au suicide sont ensuite la Saxe, la Prusse et la France. L'armée n'y est pas très éprouvée. Le coefficient d'aggravation y varie entre 1,25 et 1,77. Il est au contraire très considérable pour l'Autriche, l'Italie, les États-Unis et l'Angleterre, pays où les civils se tuent très peu. Rosenfeld, dans l'article déjà cité, ayant procédé à un classement des principaux pays d'Europe au point de vue du suicide militaire, sans songer d'ailleurs à tirer de ce classement aucune conclusion théorique, est arrivé au même résultat. Voici en effet dans quel ordre il range les différents états avec les coefficients calculés par lui. France 1,3, Prusse 1,8, Angleterre 2,2, Italie entre 3 et 4, Autriche 8. Sauf que l'Autriche devrait venir avant l'Italie, la version est absolument régulière. Elle s'observe d'une manière encore plus frappante à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Les corps d'armée qui ont le coefficient d'aggravation le plus élevé sont ceux qui tiennent garnison dans les régions où les civils jouissent de la plus forte immunité et inversement. Il n'y a qu'une exception, c'est celle du territoire d'Innsbruck, où le taux des civils est faible et où le coefficient d'aggravation n'est que moyen. De même en Italie, Bologne est de tous les districts militaires celui où les soldats se tuent le moins, 180 suicides pour 1 million. C'est aussi celui où les civils se tuent le plus, 89,5. Les Pouilles et les Abruzzes, au contraire, comptent beaucoup de suicides militaires, 370 et 400 pour 1 million, et seulement 15 ou 16 suicides civils. On peut faire en France des remarques analogues. Le gouvernement militaire de Paris, avec 260 suicides pour 1 million, est bien au-dessous du corps d'armée de Bretagne, qui en a 440. Même à Paris, Le coefficient d'aggravation doit être insignifiant puisque, dans la Seine, 1 million de célibataires de 20 à 25 ans donnent 214 suicides. Ces faits prouvent que les causes du suicide militaire sont non seulement différentes, mais en raison inverse de celles qui contribuent le plus à déterminer les suicides civils. Or, dans les grandes sociétés européennes, ces derniers sont surtout dus à cette individuation excessive qui accompagne la civilisation. Les suicides militaires doivent donc dépendre de la disposition contraire, à savoir d'une individuation faible ou de ce que nous avons appelé l'état d'altruisme. En fait, les peuples où l'armée est le plus portée au suicide sont aussi ceux qui sont le moins avancés et dont les mœurs se rapprochent le plus de celles qu'on observe dans les sociétés inférieures. Le traditionalisme, cet antagonisme par excellence de l'esprit individualiste, est beaucoup plus développé en Italie, en Autriche et même en Angleterre qu'en Saxe, en Prusse et en France. Il est plus intense à Zara, à Cracovie, qu'à Graz et qu'à Vienne, dans les Pouilles qu'à Rome ou à Bologne, dans la Bretagne que dans la Seine. Comme il préserve du suicide égoïste, on comprend sans peine que là où il est encore puissant, la population civile compte peu de suicides. Seulement, il n'a cette influence prophylactique que s'il reste modéré. S'il dépasse un certain degré d'intensité, il devient lui-même une source originale de suicides. Mais l'armée, comme nous le savons, tend nécessairement à l'exagérer. Et elle est d'autant plus exposée à excéder la mesure que son action propre est davantage aidée et renforcée par celle du milieu ambiant. L'éducation qu'elle donne a des effets d'autant plus violents qu'elle se trouve être plus conforme aux idées et aux sentiments de la population civile elle-même, car alors elle n'est plus contenue par rien. Au contraire, là où l'esprit militaire est sans cesse et énergiquement contredit par la morale publique, il ne saurait être aussi fort que là où tout concourt à incliner le jeune soldat dans la même direction. On s'explique donc que, dans les pays où l'état d'altruisme est suffisant pour protéger dans une certaine mesure l'ensemble de la population, l'armée le porte facilement à un tel point qu'il y devient la cause d'une notable aggravation. Deuxièmement, dans toutes les armées, les troupes d'élite sont celles où le coefficient d'aggravation est le plus élevé. Ce dernier chiffre ayant été calculé par rapport aux célibataires de 1889-91 est beaucoup trop faible, et pourtant il est bien supérieur à celui des troupes ordinaires. De même, dans l'armée d'Algérie qui passe pour être l'école des vertus militaires, le suicide a donné pendant la période 1872-1918 une mortalité double de celle qu'ont fournie au même moment les troupes stationnées en France, 570 suicides pour 1 million au lieu de 280. Au contraire, les armes les moins éprouvées sont les pontonniers, le génie, les infirmiers, les ouvriers d'administration, c'est-à-dire celles dont le caractère militaire est le moins accusé. De même, en Italie, tandis que l'armée en général, pendant les années 1878-81, donnait seulement 430 cas pour 1 million, les bersagliers en avaient 580, les carabiniers 800, les écoles militaires et les bataillons d'instruction 1010. Or, ce qui distingue les troupes d'élite, c'est le degré intense auquel y atteint l'esprit d'abnégation et de renoncement militaire. Le suicide dans l'armée varie donc comme cet état moral. Troisièmement, une dernière preuve de cette loi, c'est que le suicide militaire est partout en décadence. En France, en 1862, il y avait 630 cas pour 1 million. En 1890, il n'y en a plus que 280. On a prétendu que cette décroissance était due aux lois qui ont réduit la durée du service. Mais ce mouvement de régression est bien antérieur à la nouvelle loi sur le recrutement. Il est continu depuis 1862, sauf un relèvement assez important de 1882 à 1888. On le retrouve d'ailleurs partout. Les suicides militaires sont passés en Prusse de 716 pour 1 million en 1877 à 457 en 1893, dans l'ensemble de l'Allemagne, de 707 en 1877 à 550 en 1890, en Belgique, de 391 en 1885 à 185 en 1891, en Italie, de 431 en 1876 à 389 en 1892. En Autriche et en Angleterre, la diminution est peu sensible, mais il n'y a pas accroissement. 1209 à 1892 dans le premier de ces pays et 210 dans le second en 1890 au lieu de 1977 et 217 en 1876. Or, si notre explication est fondée, c'est bien ainsi que les choses devaient se passer. En effet, il est constant que, pendant le même temps, il s'est produit dans tous ces pays un recul du vieil esprit militaire. À tort ou à raison, ces habitudes d'obéissance passive, de soumission absolue, en un mot d'impersonnalisme si l'on veut nous permettre ce barbarisme, se sont trouvées de plus en plus en contradiction avec les exigences de la conscience publique. Elles ont par conséquent perdu du terrain. Pour donner satisfaction aux aspirations nouvelles, la discipline est devenue moins rigide, moins compressive de l'individu. Il est d'ailleurs remarquable que dans ces mêmes sociétés et pendant le même temps, les suicides civils n'ont fait qu'augmenter. C'est une nouvelle preuve que la cause dont ils dépendent est de nature contraire à celle qui fait le plus généralement l'aptitude spécifique des soldats. Tout prouve donc que le suicide militaire n'est qu'une forme de suicide altruiste. Assurément, nous n'entendons pas dire que tous les cas particuliers qui se produisent dans les régiments ont ce caractère et cette origine. Le soldat, en revêtant l'uniforme, ne devient pas un homme entièrement nouveau. Les effets de l'éducation qu'il a reçue, de l'existence qu'il a menée jusque-là, ne disparaissent pas comme par enchantement. Et d'ailleurs, il n'est pas tellement séparé du reste de la société qu'il ne participe pas à la vie commune. Il peut donc se faire que le suicide qu'il commet soit quelquefois civil par ses causes et par sa nature. Mais une fois qu'on a éliminé ces cas épars sans lien entre eux, il reste un groupe compact et homogène, qui comprend la plupart des suicidés dont l'armée est le théâtre, et qui dépend de cet état d'altruisme sans lequel il n'y a pas d'esprit militaire. C'est le suicide des sociétés inférieures qui survit parmi nous, parce que la morale militaire est elle-même, par certains côtés, une survivance de la morale primitive. Sous l'influence de cette prédisposition, le soldat se tue pour la moindre contrariété, pour les raisons les plus futiles, pour un refus de permission, pour une réprimande, pour une punition injuste, pour un arrêt dans l'avancement, pour une question de point d'honneur, pour un accès de jalousie passagère, ou même, tout simplement, parce que d'autres suicides ont eu lieu sous ses yeux ou à sa connaissance. Voilà en effet d'où proviennent ces phénomènes de contagion que l'on a souvent observés dans les armées et dont nous avons plus haut rapporté des exemples. Ils sont inexplicables si le suicide dépend essentiellement de causes individuelles. On ne peut admettre que le hasard ait justement réuni dans tel régiment, sur tel point du territoire, un aussi grand nombre d'individus prédisposés à l'homicide de soi-même par leur constitution organique. D'autre part, il est encore plus inadmissible qu'une telle propagation imitative puisse avoir lieu en dehors de toute prédisposition. Mais tout s'explique aisément quand on a reconnu que la carrière des armes développe une constitution morale qui incline puissamment l'homme à se défaire de l'existence. Car il est naturel que cette constitution se trouve à des degrés divers chez la plupart de ceux qui sont ou qui ont passé sous le drapeau, et comme elle est pour les suicides un terrain éminemment favorable, il faut peu de choses pour faire passer à l'acte le penchant à se tuer qu'elle recèle. L'exemple suffit pour cela. C'est pourquoi il se répand comme une traînée de poudre chez les sujets ainsi préparés à le suivre.